Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fashion Inside Out, un podcast dans lequel les étudiants de l'Institut français de la mode discutent avec des professeurs de leur domaine de recherche. Je suis Pauline Miseret, étudiante en Master in International Fashion and Luxury Management, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Simenauer, directeur de la recherche et professeur à l'IFM, pour parler de la sémantique de la mode. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail votre parcours et puis votre position et votre domaine de recherche à l'IFM ?
Tout à fait. Alors j'ai un parcours un peu atypique, on peut dire. J'ai commencé il y a très longtemps comme étudiant en philosophie et les sujets qui m'intéressaient en philosophie et le type de philosophie qui m'intéressait, c'était des questions de logique et de philosophie du langage. Donc a priori très très loin de la mode, oui, du vêtement de l'IFM. Et pour des raisons là qui seraient longues et détaillées, après ces études de philo, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé comme consultant notamment, et la recherche, l'enseignement m'ont manqué. Et le fruit du hasard, je suis venu un jour à l'IFM, à une table ronde, et en fait on m'a gentiment demandé si je voulais pas rester un peu à l'IFM. Donc j'ai commencé par y faire quelques cours, et puis l'occasion s'est présentée de venir s'y installer vraiment, et de pouvoir en fait reprendre un peu là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire en me demandant en fait si... Les questions que je me posais plus jeune sur qu'est-ce qu'un langage, qu'est-ce qui fait que... Comment on fait pour comprendre les énoncés d'un langage, comment on fait pour les interpréter, qu'est-ce qui fait qu'on peut produire du sens dans certains contextes et pas dans d'autres. Toutes ces questions-là, je me suis dit, mais finalement, on peut se les poser à propos du vêtement et de la mode, puisqu'il y a cette analogie qu'on fait souvent entre langage et vêtement, la manière dont on est habillé dit des choses, ou a l'air de dire des choses, peut-être que l'analogie en fait pas assez rigoureuse. Et voilà, donc c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à ces questions. Et donc à l'IFM, j'ai deux casquettes, si je puis dire. L'une qui consiste à enseigner, donc j'enseigne dans presque tous les programmes, à la fois auprès d'étudiants en management et auprès des étudiants en design. Et j'enseigne, on va dire, de la philosophie appliquée à la mode et à, on va dire, sous toutes les dimensions de la mode, à la fois le vêtement, l'image, et je suis aussi responsable des programmes de recherche, c'est-à-dire je coordonne un peu les efforts des différents enseignants-chercheurs pour qu'on travaille sur des sujets connexes. Voilà.
Et donc justement, vous avez eu comme élève dans deux différentes disciplines, le premier sur le lien entre la mode et le cinéma en première année, et puis en deuxième année sur la théorie de la mode. Je voulais justement qu'on se replonge un peu plus en détail sur la sémantique de la mode. Et donc dans vos cours, vous parliez beaucoup du concept de la mode comme un langage et comment la signification du vêtement a pu évoluer avec le temps, étant influencée par différents facteurs dont on pourra parler un peu plus en détail. Et donc, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît élaborer sur la différence entre les signes naturels et intentionnels et expliquer justement comment un vêtement peut passer de l'un à l'autre ?
Alors, je vais le faire, mais si vous me le permettez, je vais juste, pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi le cours, remettre un tout petit peu les choses en contexte, parce qu'en fait, quand on pense aux vêtements, on ne pense pas forcément en premier au fait que le vêtement est un signe ou agit comme un signal ou permet de transmettre de l'information. Ce qu'on se dit d'abord quand on pense aux vêtements, c'est que c'est un artefact, c'est-à-dire que c'est un objet fabriqué par l'homme pour répondre à des fonctions pratiques. Ces fonctions pratiques, c'est la couverture du corps. Donc, on a pas mal d'études assez récentes, en fait, qui vont combiner des données à la fois d'archéologie, de climatologie, de physiologie et d'autres disciplines qui montrent qu'en fait, si on a inventé le vêtement en tant qu'espèce, c'est vraiment pour nous protéger du froid, hein, et que d'autres fonctions du vêtement sont apparues ensuite, comme par exemple des fonctions de couverture de la nudité, c'est-à-dire voilà, des fonctions liées à la pudeur, au fait qu'on préfère dans l'espace public ne pas révéler l'intégralité de son corps, et des fonctions de parure, c'est-à-dire que le vêtement a aussi des fonctions qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont au cœur de l'industrie de la mode, qui sont des fonctions d'embellissement, des fonctions esthétiques. Et il se trouve que à côté de ces fonctions-là, ou liées à elles, mais on peut quand même distinguer une autre fonction, qui est une fonction qu'on va appeler sémantique, c'est-à-dire une fonction de signalement. C'est-à-dire que le vêtement permet, en fait, à qui le porte, une tenue vestimentaire permet à qui porte cette tenue d'envoyer un message ou d'envoyer plusieurs messages et à l'environnement qui réagit à ça, d'inférer un certain nombre d'informations à partir de la tenue. Et donc concrètement, au quotidien, de manière plus ou moins consciente, on fait tous des déductions ou des inférences sur les personnes qu'on rencontre, qu'on les connaisse ou pas, qu'on les voit très rapidement ou pas. On va faire des inférences plus ou moins conscientes sur l'identité de la personne. Donc des choses toutes bêtes, hein. Le genre, le statut social, l'activité de la personne au moment où on la voit. Évidemment, des choses très concrètes comme est-ce qu'elle a froid ou chaud. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui est pelotonné dans un anorak, vous pensez que probablement il ou elle a froid. Et donc, voilà, il y a un ensemble d'informations qui sont transmises par la tenue vestimentaire. Donc ça, c'était juste pour cadrer l'idée que ça fait sens, si vous voulez, d'étudier le vêtement, pas seulement en vertu de ses propriétés fonctionnelles ou pratiques, mais aussi comme... Alors, je ne sais pas si c'est un langage, ça, on y reviendra peut-être après, oui, si vous voulez, mais en tout cas, comme un moyen de transmettre de l'information et de recueillir de l'information. C'est-à-dire que porter un vêtement, c'est envoyer une information, voir une tenue portée, c'est mécaniquement ou automatiquement acquérir une information. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde animal, en général, qui inclut l'être humain, mais aussi beaucoup d'autres espèces, on voit en fait qu'il y a une distinction qui est très intéressante entre, que vous avez mentionné, entre ce qu'on peut appeler les signes naturels et les signes intentionnels. Donc ça, c'est les biologistes en fait, au départ, qui font ces distinctions-là. Un signe naturel, c'est simplement une variation de la nature qui va nous informer sur l'environnement. Donc, par exemple, généralement, le signe naturel plus banal qu'on donne, c'est vous voyez de la fumée et vous vous dites que quelque part, il y a quelque chose qui brûle. Donc, pas de fumée sans feu. Bon, voilà, ça, c'est un signe naturel. Alors, les signes naturels, ils ont plein de propriétés intéressantes. Par exemple, ils ne peuvent pas être faux. C'est-à-dire que si vraiment la fumée est le signe du feu, c'est qu'il y a vraiment un feu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous voyez une trace de pas dans la neige et que vous, c'est bien le signal d'une créature qui est passée là, pareil. Et donc ça, les signes naturels sont en fait simplement des transformations de l'environnement ou des variations de l'environnement qui vont permettre à cet environnement, donc aux créatures qui habitent cet environnement, ça peut être des animaux, ça peut être des êtres humains, voilà, bah, d'utiliser en fait ces variations comme une source d'information. Les signes intentionnels, c'est très différent. Les signes intentionnels, c'est suppose, comme leur nom l'indique, une intention de communiquer. Et donc, un signe intentionnel, bah, la forme la plus connue du signe intentionnel, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est un dialogue, par exemple. Si je dis quelque chose, vous allez faire l'hypothèse, probablement vraie, qu'il n'y a pas une machine à l'intérieur de moi qui produit mécaniquement des phrases dans le désordre et que tout ça n'a aucun rapport avec ma volonté. Vous allez plutôt faire l'inférence qu'en fait, si je vous parle, c'est parce que j'essaye de vous faire acquérir une certaine information. Et élément plus complexe encore, en vous parlant, non seulement je cherche à vous communiquer une information, mais je cherche aussi à vous faire reconnaître mon intention de communiquer cette information. Donc vous voyez, un signe intentionnel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, parce qu'il va comporter, pour être reconnu et compris comme tel, deux niveaux, une communication et l'intention de cette communication qui doit être...
Donc il y a un vrai lien entre les deux personnes, la personne qui...
Il y a, pour comprendre un signe intentionnel, en général, je dois être capable de le décrypter, mais je dois aussi être capable de faire des inférences à propos des intentions de la personne qui communique. Et donc, c'est évidemment une forme de signaux ou c'est une forme de signal qui est plus évoluée au sens de la théorie de l'évolution, parce qu'elle suppose en général des intentions et donc une forme de vie plus sophistiquée, quoi, plus complexe.
Ce que je trouve très intéressant, ouais, par rapport justement à ce sujet, si on le rapproche à l'idée du vêtement,
oui,
puisque c'est un petit peu le sujet principal de recherche, en tout cas de l'IFM, comment justement appliquer au vêtement, qui était à l'origine justement un signe plutôt naturel, comment le vêtement a pu devenir un signe intentionnel ?
C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on applique cette distinction entre si naturel et si intentionnel aux vêtements? Alors, en fait, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, vous portez un vêtement très épais, comme un anorak, et très couvrant. Bah là, l'environnement peut se servir de cette variation, ou simplement de cet état de fait, comme le signe naturel, peut-être du fait qu'il fait froid ou que vous avez froid, quoi. Et donc là, il n'y a pas à prendre en compte l'intention d'autrui. Simplement, en fait, quand on voit les vêtements ou quand on voit des tenues portées, ben, mécaniquement, on va observer en fait des propriétés physiques du vêtement, des propriétés matérielles qui vont fonctionner comme des signes naturels. Inversement, évidemment, si on habille de manière très courte ou très peu couvrante, bah, ça envoie signal on a chaud. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, naïf quasiment, où la signalétique des vêtements, elle est liée à leurs propriétés matérielles. Alors c'est pour ça, je fais une petite digression, vous savez, comme
Monsieur,
vous m'avez eu en cours, que j'aime bien les
oui.
digressions, je fais une petite digression. C'est pour ça qu'il y a un premier niveau de communication à travers les vêtements qui est lié profondément à leur usage. Et c'est pour ça que Roland Barthes, par exemple, a complètement tort dans sa théorie de la mode, puisque Barthes est très connu. Roland Barthes, c'est un sémiologue français des années 60, 70, qui est très très connu au sein des étudiants et des chercheurs sur la mode, parce qu'il a écrit ce livre en 1967 qui s'appelle Système de la mode, dans lequel il explique qu'en fait, les vêtements n'ont de signification qu'arbitraire. C'est-à-dire qu'ils ont une signification qui est seulement liée à ce que la société et la société bourgeoise, dont Barthes parlait, décident de leur attribuer un sens, mais qui est complètement arbitraire. Et donc, il donne plein d'exemples provenant de la presse de mode des années 60, où tout d'un coup, certains imprimés, par exemple, peuvent signifier les courses hippiques ou ce genre de choses. Et Barthes refuse totalement l'idée que les vêtements pourraient avoir justement quelque chose comme une signification naturelle. C'est-à-dire une signification qui est liée non pas à ce que des conventions sociales vont établir, mais qui sont liées à leurs propriétés physiques, matérielles. Or, il y a un premier niveau de sens du vêtement qui est profondément lié à ça, et le niveau qui va venir ensuite, c'est-à-dire un niveau plutôt culturel, celui de la mode à proprement parler, il n'est pas du tout indépendant du niveau naturel. Il en est une évolution parfois très sophistiquée, il peut être parfois difficile de retrouver l'élément naturel dans le signe intentionnel, mais il est profondément lié à ça, et donc il n'y a pas, si vous voulez, de discontinuité complète entre l'usage du vêtement et sa signification. Ça, c'est le premier point. Alors, évidemment, en fait, le vêtement devient un signe intentionnel à partir du moment où on peut observer des choses comme le fait que je vais choisir de m'habiller d'une certaine manière avec l'intention ou avec la finalité que vous fassiez un certain nombre de déductions à mon propos. Alors, il arrive très souvent qu'on se trompe. C'est là où vous voyez on est passé du signe naturel au signe intentionnel parce qu'il peut y avoir des signes qui sont faux. Je peux. Alors, il y a plein d'exemples dans la mode assez drôles de ça. Je peux mettre une tenue de policier, ça ne fait pas de moi un policier. Et donc, il y a des cas dans lesquels les signes intentionnels qu'on envoie sont des signes qui ont pour but bah, de manipuler les observateurs et de leur faire croire, de leur faire faire des inférences qui sont des inférences, en l'occurrence, fausses. Mais il y a des signes intentionnels, voilà. À partir du moment où il y a intention. Et donc à partir du moment où on va utiliser le vêtement non plus seulement pour couvrir son corps, mais pour ben créer chez les observateurs extérieurs des croyances, éventuellement des désirs aussi, ou des émotions qui sont liées voilà, à ce que je porte. Et donc bah là, on peut donner plein d'exemples de ça. Si vous voulez, toute l'histoire de la mode, en fait, est l'histoire de l'évolution de ces signes intentionnels. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, on peut se poser la question, pourquoi le costume cravate, ça devient, on va dire, 19e siècle, ou, enfin, là, il faudrait demander à mes collègues historiens de vous dire exactement quand, mais ça devient, le costume cravate, le signe de la vie de bureau ou des occasions formelles. Bon, il n'y a rien, a priori, naturellement, dans le costume cravate, qui indique que celui ou celle qui le porte se trouve dans une situation formelle ou dans une situation professionnelle. Et donc ça, c'est simplement l'évolution d'un certain nombre de pratiques, de conventions qui sont liées au fait que voilà, les vêtements sont utilisés comme des outils de communication et plus seulement comme des moyens de régler des problèmes pratiques.
Et même quand on pose aux designers aujourd'hui qui créent des collections, souvent ils ont évidemment une intention quand ils créent leur collection, et le public peut évidemment analyser, disons, le défilé ou la collection de manière complètement différente.
Oui, alors là, vous mettez le doigt sur deux problèmes. Le premier, c'est que il peut y avoir un enchâssement d'intention, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de celui qui porte le vêtement, mais il y a aussi l'intention de celui qui l'a conçu ou créé quand il s'agit de mode créative. Et ces intentions sont en général assez différentes, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer un vêtement, par exemple. Les designers, ils sont souvent influencés par des références artistiques ou par d'autres créateurs de mode auxquels ils vont se référer. On n'est pas obligé, quand on porte ses vêtements, quand on les choisit, quand on les met, d'être au courant de ça. Et donc, on va typiquement associer aux vêtements qu'on met des messages, des significations qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que le créateur y avait mis. Donc, vous voyez, il peut y avoir... Et il y a un deuxième problème qui est d'une certaine manière plus important que celui-là, qui est la question de savoir si on converge entre ceux qui mettent les vêtements et ceux qui les observent et qui les interprètent. Est-ce qu'on converge sur une signification similaire ? Et ça, c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie différence avec le langage. C'est-à-dire que si on est locuteur de la même langue, donc là, en l'occurrence, on parle français, si on parle français, on va avoir tendance, même si on observe qu'au sein des locuteurs d'une même langue, il peut y avoir des écarts de compréhension et des écarts d'interprétation d'une même phrase, on va quand même repérer une régularité très forte dans les comportements linguistiques. C'est-à-dire qu'en gros, ce que moi, je mets derrière les mots que j'utilise, donc le sens de ces mots, il est à peu près le même pour vous, en principe. Pour les vêtements, on observe une variabilité beaucoup plus grande. C'est un système de communication qui est moins efficace. Il est moins sophistiqué aussi, il a plein de propriétés. Les langages parlés ont des propriétés que les systèmes de signalement comme les vêtements n'ont pas. Par exemple, des propriétés syntaxiques, le fait qu'on est capable de construire des phrases de manière très complexe, de manière récursive et infinie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire avec des tenues vestimentaires. C'est un langage qui est plus rudimentaire. Et c'est un langage qui est extrêmement déterminé par la culture. Et donc, c'est là que les problèmes arrivent, si je puis dire. Ils arrivent à deux niveaux. Ils arrivent d'un point de vue très concret, c'est-à-dire que on peut s'habiller d'une certaine manière et l'effet que ça va avoir n'est pas du tout celui auquel on s'attendait. Et on peut voir aussi des conflits sociaux ou culturels très forts à propos du vêtement. Évidemment, en France, par exemple, tous les débats autour du voile, mais aussi autour du crop top à l'école, qui sont des débats assez symétriques, en fait, sont des débats qui ont à voir avec, justement, les significations qu'on attribue aux vêtements et qui peuvent être très disparates. Pourquoi elles sont disparates ? Parce que les significations associées aux vêtements, elles sont très liées, en fait, à des conventions qui vont fonctionner au niveau de petits groupes, pas au niveau de très grands groupes. Et donc, en fait, on va plutôt se mettre d'accord à l'échelle de petits groupes sur... par exemple, la signification du crop top ou de la marinière ou des chaussettes à pois ou de ce que vous voulez. Et en dehors de ce groupe, eh bien, le même vêtement va signifier tout à fait autre chose. Parce que dans une autre communauté, dans un autre groupe, on va plutôt avoir tendance à converger sur autre chose. Ça, c'est lié à l'histoire du vêtement, au fait que les modes et les pratiques vestimentaires, en fait, elles ne sont pas uniformes dans une société, contrairement aux pratiques linguistiques. Donc voilà, on voit apparaître là des différences assez fortes.
Oui, donc un vêtement, en fait, peut avoir une infinité de significations.
Alors, oui et non. Oui, un même vêtement peut avoir des significations très différentes selon le groupe et la culture de référence. Mais il y a quand même une contrainte, qui est justement celle que Barthes n'avait pas à l'esprit, qui est la contrainte de la réalité physique du vêtement, de la réalité matérielle du vêtement. Ça va être très difficile de faire signifier un manteau de fourrure... quelque chose comme le bain de soleil.
Et donc, je voulais qu'on parle un peu plus en détail d'un exemple que vous prenez aussi dans vos cours, celui du bomber MA1. Si vous voulez expliquer un petit peu peut-être...
ce que c'est.
Exactement.
Ouais, alors, bon, je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vu des blousons comme ça. Donc, en fait, c'est un blouson... qui est en nylon en général, ou qui est en tout cas dans une matière assez synthétique, qui est alors il a une caractéristique assez singulière, c'est qu'il a une poche sur la manche. Alors sur la manche gauche ou droite, je crois que c'est gauche plutôt en général, il a une poche à stylo, c'est-à-dire qu'on peut y glisser des stylos, des objets de même gabarit dans cette petite poche sur la manche. Il est assez léger, il a une grosse fermeture éclair au milieu, et en fait au départ ce blouson qui s'appelle MA1, c'est le blouson des pilotes de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il a une histoire à ce moment-là qui est assez intéressante, c'est qu'en fait jusque-là les pilotes portaient plutôt des blousons aviateurs, donc en cuir, qui sont des blousons plus lourds, plus rigides et qui protègent pas très bien du froid. Le cuir est une matière qui transmet plutôt le froid, quoi. Donc
il y avait déjà un aspect fonctionnel.
Ah ben voilà, la bomber. Création du bomber MA1, c'est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'améliorer en fait les conditions de pilotage. Donc il est plus léger. La poche, c'est pour pouvoir mettre le crayon, parce qu'en fait à cette époque, les pilotes d'avion, ils notent les coordonnées qui vont permettre de calculer une trajectoire. Au crayon, il n'y a pas d'ordinateur de bord. Hein. Oui. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, vous voyez, le design est conçu comme ça. Et donc, effectivement, au départ, si on veut donner une signification à ce blouson, c'est la signification, qu'on pourrait dire naturelle en un certain sens. En tout cas, c'est l'uniforme.
C'est pratique pour les.
C'est déterminé par les conditions pratiques. La forme est déterminée par les conditions pratiques. Et les gens qui portent ce blouson, ce qu'ils signalent, en fait, c'est qu'ils appartiennent à ce groupe bien particulier des pilotes de l'armée américaine.
Et donc, ensuite, c'est ce qu'on voit aussi dans vos cours, ce que signifie, en tout cas, ou ce que symbolise ce bomber, ça a évolué plusieurs fois. Et c'est pour ça que je trouve le bomber assez intéressant comme exemple. Est-ce que vous voulez expliquer son symbole a évolué?
Alors, c'est pour ça qu'on le connaît bien, ce bomber. C'est qu'on n'est pas tous des spécialistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des tenues des militaires ou des pilotes. Ensuite, il est sorti de son contexte initial. Comme beaucoup de vêtements qui au départ en fait ont un usage qui est très spécifique, le jean par exemple au départ c'était très spécifique, c'était pour les mineurs américains au milieu du 19e siècle, et puis ça se généralise, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes qui vont décider d'adopter cette forme de pantalon, de blouson. Et donc on va retrouver en fait ce même bomber dans des groupes différents pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe. On le trouve par exemple chez les skinheads en Angleterre dans les années 60-70. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il a complètement changé de sens. C'est-à-dire que les skinheads qui le portent, évidemment, ils ne sont pas en train d'essayer de communiquer le fait qu'ils sont en fait des pilotes de l'armée américaine. Oui. Ce n'est pas le sujet. En fait, on pourrait dire qu'à ce moment-là, ce qui va les intéresser, c'est le fait que le blouson a un peu changé de sens, il peut avoir une signification qui n'est pas littérale, c'est-à-dire qu'il ne dit plus « je suis un militaire de l'armée américaine », mais une signification qui est métaphorique. Une signification métaphorique, pour n'importe quoi, hein, que ce soit un vêtement, une phrase, un tableau, tous les signaux qui peuvent être métaphoriques. Un signal métaphorique, c'est en fait un signal qui ne fait pas référence directement à ce dont il est habituellement le signe, mais plutôt à une propriété commune à des objets qui pourraient distinguer. Donc là, par exemple, le blouson MA1, les skinheads, ils pourraient le mettre parce qu'il va signifier la masculinité, la virilité, l'agressivité, qui étaient des caractéristiques des militaires. Et donc, ils ne vont pas reprendre le fait que c'est un symbole d'une certaine armée, mais plutôt le fait que c'est le monde militaire qui les inspire et qui les inspire dans le côté on est un groupe possiblement armé ou en tout cas qui va avoir recours à la force.
C'est intéressant, donc le symbole n'a pas complètement changé en fait, il a évolué à partir de ce qu'il était à l'origine pour suggérer quelque chose d'un peu différent.
On est passé du sens littéral au sens métaphorique et évidemment on a conservé du sens original les propriétés de force, d'agressivité et d'usage de la force, quoi. Donc on le retrouve là.
Et donc ensuite, justement, après ce nouveau, disons, cette nouvelle évolution de symbole, il y a une nouvelle communauté qui s'est ensuite appropriée le Bombers.
Ouais, ouais, le MA1, on le retrouve après, dans les années 90, chez les gens qui vont dans des rave parties, chez les ravers et les toughers.
Un peu plus cool.
Ouais, ouais, un peu plus cool que des skinheads. Et là, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'on peut se demander pourquoi, tout d'un coup, cette communauté-là va s'emparer de ce blouson-là. Et là, on peut toujours essayer de reconstituer. Hein. Là encore, il faudrait des historiens, des anthropologues qui iraient vraiment... Mais on peut se dire, en fait, que simplement, ce qui s'est passé, c'est que là encore, il y a un processus de généralisation. C'est qu'au départ, les skinheads ont adopté le blouson MA1, et après, c'est toutes les contre-cultures dont les skinheads faisaient partie qui se le sont appropriées. Et que donc, la contre-culture rêve, voilà, les gens qui vont dans des champs écouter de la techno très fort, hein, en gros, et évidemment, le blouson se met à signifier quelque chose comme ça. Il se met à signifier l'idée « je suis membre » de cette contre-culture libertaire. Et par ailleurs, et c'est ça qui est toujours intéressant, je vous le disais, le signe intentionnel donc du vêtement, enfin le fait que le vêtement est un signe intentionnel, n'est jamais complètement indépendant de son côté, de ses propriétés matérielles, c'est-à-dire qu'il se trouve que c'est aussi un blouson qui protège bien du froid, qui est léger, et donc qui est pratique quand vous passez la nuit dans un champ. Donc très concrètement, c'est aussi un choix vestimentaire qui est commandé par des questions pratiques, y compris chez ces communautés qui, évidemment, le choisissent d'abord pour ses propriétés sémantiques, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il va communiquer, le fait que j'appartiens à ce groupe-là.
Et aujourd'hui, quand on pense aux Bombers, ce qu'il signifie aujourd'hui, il est approprié justement par plusieurs groupes de personnes et est un vrai instrument de mode. Comment plusieurs communautés, justement, peuvent aujourd'hui porter le même vêtement et signifier quelque chose de complètement différent ?
Ben... Ça, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que, en fait, la signification intentionnelle des vêtements, elle va être beaucoup liée au contexte. C'est-à-dire que pour faire l'inférence correcte à propos d'une tenue vestimentaire, on prend en compte des paramètres qui sont liés à ce qu'on sait de l'identité de la personne, de la situation dans laquelle elle se trouve, et on a toujours des informations latérales. Et c'est ces informations-là qu'on va utiliser en fait pour faire la bonne inférence. Donc c'est vrai que quand on voit des gens qui vont faire la fête et qui ont l'air assez détendus et assez pacifiques, on va pas faire l'inférence que c'est des skinheads, même s'ils peuvent avoir les cheveux très courts, puisqu'il y avait aussi cette mode-là chez les ravers, certains avaient les cheveux très courts. Donc un même vêtement, selon le contexte où il est observé, le contexte où il est mis, peut effectivement envoyer des signaux très différents. Ce qu'on voit aussi avec la mode et avec la création de mode, c'est que souvent une forme, un design, en fait, va être l'objet de variations. Donc on va par exemple faire des bombers qui vont garder un peu cette construction où c'est la poche sur la manche, etc., les proportions globales. Mais on va changer, on va lui garder les mêmes proportions, mais on va le faire beaucoup plus grand, on va le faire oversize, comme on dit. Ou au contraire, on va le faire dans une autre matière, on va le faire plus fité, on va le faire en cuir, on va le faire dans des tissus, dans des couleurs où il n'était pas du tout, il n'existait pas du tout. Et donc, là, on va pouvoir donner au porteur du vêtement un nouveau signe. Qui n'aura évidemment pas exactement le même sens que le bomber original. Pourquoi ? Et là aussi, c'est ce qu'on voit dans la manière dont on interprète les vêtements, c'est des mécanismes très généraux. C'est-à-dire, là pour le coup, c'est des mécanismes de raisonnement qui sont très généraux. On se dit que si le bomber bleu ciel est bleu ciel, il ne peut pas signifier la même chose que le noir original parce qu'on ne multiplie pas les signes de manière inefficiente. Ça, c'est un principe très général de rationalité, c'est que si on a plusieurs moyens de dire quelque chose, et bien en fait, assez naturellement, ce qui va se passer, c'est que ces différents moyens de dire la même chose au départ vont se spécialiser et vont acquérir des significations plus particulière. Si je vous dis par exemple, il a laissé le shérif mourir au lieu de il a tué le shérif, Vous allez probablement en inférer que justement il l'a pas littéralement assassiné, la personne dont je parle. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une phrase un peu différente. Et ben c'est la même chose avec les vêtements. Si vous mettez une tenue qui est un peu différente d'une tenue stéréotypique, comme voilà le bomber MA1 qui est devenu un classique de la mode, si vous en mettez une version un peu moins courante, l'interprétation qui va être déclenchée par ça, c'est qu'en fait, vous dites quelque chose qui est proche du signal originel ou du sens du signal originel, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est comme ça que l'histoire de la mode a fonctionné. On a toujours inventé, innové dans la mode en expérimentant à partir du design existant, en transformant certaines petites propriétés et en faisant évoluer comme ça le sens des vêtements.
Merci, je trouvais ça intéressant de justement finir sur ce bel exemple qu'est le bomber. Et avant de finir ce podcast, je voulais vous poser la question incontournable. Quelle est votre partie de la recherche que vous préférez à l'IFM?
Alors à l'IFM et en général, alors la recherche c'est une activité qui peut prendre des formes assez différentes. En général, on va dire que si on essaie de simplifier à l'extrême, il y a deux grands moments. Il y a un moment, on va dire, de conceptualisation ou de modélisation où en fait on va chercher à formuler du mieux possible certaines hypothèses. Et puis il y a le moment où on les teste. Et c'est pas tout à fait le même travail. Moi, ce que je préfère faire dans la recherche, et on va dire ce sur quoi je me concentre le plus, c'est la première partie. La partie empirique m'intéresse aussi beaucoup, mais si je dois choisir, c'est plutôt la partie de conception de modèles ou de formulation des hypothèses qui m'intéresse le plus.
Encore une fois, Benjamin, merci d'être venu et à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous êtes curieux, restez branchés pour un prochain épisode et allez rapidement vous abonner sur l'Instagram et le Twitter de l'IFM à IFM Paris pour plus d'informations. À très vite!